44. Pour une fois, le visage de Janov Pelorat ne resta pas inexpressif. Non pas qu'il fût habité par la passion ou par quelque autre expression plus fugace, non. Ses yeux s'étaient simplement étrécis et une sorte d'ardeur féroce avait envahi tous ses traits. Il demanda, et sa voix avait cette fois perdu son petit côté hésitant, « Comment avez-vous dit que vous aviez eu connaissance de tout cela ?»«
Je vous l'ai dit.
C'est mon héritage. Ne soyez pas stupide, jeune homme. Vous êtes un conseiller, ce qui signifie que vous avez forcément dû naître sur une des planètes de la Fédération. Smyrno, si j'ai bonne mémoire.
C'est exact.
Eh bien alors, de quel héritage voulez-vous parler ? Êtes-vous en train de me dire que vous possédez des gènes syriens qui vous donnent une connaissance innée des mythes syriens concernant la Terre ? »
Compor sembla pris de court.
« Non. Bien sûr que non. Eh bien, de quoi parlez-vous ? »
Compor marqua une pause, cherchant apparemment à rassembler ses idées. Puis il expliqua calmement.
« Ma famille possède de vieux bouquins d'histoire syrienne. Un héritage extérieur. » Et non pas interne. Ce n'est pas une chose dont on parle volontiers à des étrangers, surtout quand on tient à sa carrière politique. Contrairement à ce que semble penser Trévise, croyez-moi, je ne mentionne le fait qu'à mes meilleurs amis.
Il y avait une trace d'amertume dans sa voix.
Théoriquement, les citoyens de la Fédération sont tous semblables. Mais ceux des mondes de la Fédération se ressemblent plus que ceux des planètes plus récentes. Quant à ceux qui sont issus des planètes extérieures à la Fédération, ce sont encore eux les plus dissemblables, mais peu importe. En dehors de mes lectures, j'ai déjà eu l'occasion de visiter des mondes anciens.
Trévise ?
Hé ! Reviens !
Trévise s'était glissé vers une extrémité de la salle afin d'aller jeter un coup d'œil dehors par une des fenêtres triangulaires. Celle-ci permettait d'avoir une vue sur le ciel tout en réduisant la perspective sur la ville, favorisant à la fois la lumière et l'intimité. Trévise dut s'étirer pour regarder en bas. Il retraversa la pièce vide.
Intéressant comme dessin, ces fenêtres. On m'a appelé, conseiller ?
Oui.
Tu te souviens de mon voyage de fin d'études ?
Après le diplôme, oui, je m'en souviens très bien. On était copains à l'époque. Copains pour toujours. La confiance éternelle. Tous les deux seuls contre le monde.
Oui. Tu es parti accomplir ton périple. Moi, je me suis engagé dans la marine, plein de patriotisme. D'une manière ou de l'autre, je crois que je ne voulais pas t'accompagner. Une espèce d'instinct m'en avait dissuadé. Je regrette de ne pas l'avoir conservé, cet instinct.
Compor ne releva pas la pique. Il reprit. J'ai visité Comporellon. La tradition familiale disait que mes ancêtres en étaient originaires, du moins du côté de mon père. Nous faisions partie de la famille régnante dans l'ancien temps, avant que l'Empire ne nous absorbe. D'ailleurs, mon nom provient de celui de la planète. C'est du moins ce que relate la tradition familiale. Nous avions aussi un vieux nom très poétique pour l'étoile autour de laquelle orbitait Comporellon. Epsilon Eridani.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Demanda Pelorat. Compor hocha la tête.
J'ignore si ce nom a une quelconque signification. Ce n'est qu'une tradition. Il conserve énormément de traditions. C'est un monde ancien. Il possède là-bas d'interminables archives détaillées sur l'histoire de la Terre, mais personne n'en parle beaucoup. Ils sont restés très superstitieux. Chaque fois qu'ils mentionnent son nom, ils lèvent les deux mains, le majeur et l'index croisés, pour conjurer le mauvais sort.
Avez-vous parlé de cela à quelqu'un à votre retour ?
Bien sûr que non.
Qui cela pouvait-il intéresser ? Et je n'allais sûrement pas bassiner les gens avec ça, non merci.
Il fallait d'abord que je m'occupe de ma carrière. Et s'il est une chose que je préfère ne pas ébruiter, ce sont bien mes origines étrangères.
Et le satellite de la Terre ?
Coupa Pelorat, incisif.
Décrivez-nous le satellite de la Terre.
Compor eut l'air éberlué.
Là, j'en serais bien incapable.
Est-ce qu'elle en a un au moins ?
Je n'ai pas souvenance de l'avoir lu ou entendu, mais je suis sûr qu'en consultant les archives comporelloniennes, vous trouveriez votre bonheur.
Mais vous ne pouvez rien dire.
Sur le satellite, non. Ça ne me dit rien.
Et comment la Terre est-elle devenue radioactive ?
Compor hocha la tête sans dire mot. Pellorat insista.
« Réfléchissez un peu. Vous avez bien dû entendre quelque chose à ce sujet. »
C'était il y a 7 ans, professeur. Je n'étais pas censé savoir que vous m'interrogeriez là-dessus aujourd'hui. Il courait une sorte de légende qu'il considérait comme historique.
Quelle était cette légende ?
La Terre était radioactive, frappée d'ostracisme, dédaignée par l'Empire, se dépeuplant lentement. Et elle se préparait d'une manière quelconque à détruire l'Empire.
Une planète moribonde détruire tout un empire ?
S'interposa Trévise.
Compor répliqua sur la défensive. J'ai dit que c'était une légende. J'ignore les détails. Je sais que dans l'histoire on citait Belarvardhan.
Qui était-ce ?
Demanda Trévise.
Un personnage historique. J'ai cherché. C'est un brave archéologue des tout premiers temps de l'Empire qui soutenait que la Terre était située dans le secteur de Sirius. J'ai déjà entendu ce nom,
dit Pellorat. C'est devenu un héros populaire sur Comporellon.
Écoutez, si vous voulez en savoir plus, vous n'avez qu'à y aller.
Ça ne sert à rien de rester traîné ici.
Comment dites-vous que la Terre comptait faire pour détruire l'Empire ?
Demanda Pellorat.
Je ne sais pas.
Une certaine lassitude gagnait la voix de Compor.
Les radiations auraient-elles un rapport quelconque avec ça ?
Je l'ignore.
Il était aussi question d'une espèce d'amplificateur mental mis au point sur la Terre, un synapsifieur ou quelque chose comme ça.
Cet appareil pouvait-il créer des super-esprits ?
Pellorat était manifestement incrédule.
Je ne pense pas. Ce que je me rappelle surtout, c'est que ça ne marchait pas.
Les gens devenaient intelligents, mais mouraient jeunes.
Il s'agit sans doute d'un mythe moral.
Intervint Trévise.
Si l'on demande trop, on finit par perdre, même ce que l'on a.
Pellorat se retourna vers Trévise, chagriné.
Qu'est-ce que vous connaissez aux mythes moraux, vous ?
Trévise haussa les sourcils.
Votre domaine n'est peut-être pas le mien, Janoff, mais ça ne signifie pas que je sois totalement ignare.
Que vous rappelez-vous encore au sujet de ce que vous appelez un synapsifieur, conseiller Compor ?
Demanda Pellorat.
Rien. Et je n'ai pas l'intention de me soumettre plus longtemps à ce contre-interrogatoire. Écoutez.
Je vous ai suivi sur ordre du maire.
Je n'ai aucunement reçu l'ordre d'entrer en contact avec vous. Si je l'ai fait, c'est uniquement pour vous prévenir que vous étiez suivi et pour vous dire quand vous avez envoyé pour servir les projets du maire, quels qu'ils puissent être.
Je n'aurais pas dû discuter plus avant avec vous, mais vous m'avez surpris en amenant brusquement sur le tapis cette question de la Terre, alors laissez-moi vous le répéter.
Tout ce qui a bien pu exister dans le passé, Belarvardhan, le synapsifieur, tout ce que vous voudrez, ça n'a plus aucun rapport avec ce qui peut exister aujourd'hui. Je vous le redis encore une fois, la Terre est un monde mort. Je vous conseille fortement de vous rendre sur Comporellon, où vous pourrez trouver tout ce que vous voulez savoir. Mais décampez d'ici.
Et bien sûr, tu vas gentiment aller raconter à Madame le maire que nous partons pour Comporellon. Et tu vas même nous suivre pour faire bonne mesure. Ou peut-être qu'elle est déjà au courant. J'imagine qu'elle t'a soigneusement fait apprendre et répéter mot à mot tout ce que tu viens de nous raconter parce que, pour accomplir ses plans, elle a besoin de nous voir sur Comporellon, pas vrai ?
Le visage de Compor pâlit. Il se leva et dans son effort pour se maîtriser, il en bégayait presque.
J'ai essayé d'expliquer, j'ai essayé de me rendre utile. Je n'aurais pas dû. Tu peux bien aller te flanquer dans un trou noir, Trévise.
Et sur ces mots, il tourna les talons et partit à grands pas, sans se retourner.
Pellorat paraissait légèrement interloqué.
Vous avez quelque peu manqué de tact, Golan, mon ami. J'aurais pu en tirer plus de ce jeune homme.
Non. Sûrement pas. Vous n'auriez pas pu lui soutirer autre chose que ce qu'il était disposé à vous dire.
Janov, vous ne savez pas qui il est.
Jusqu'à aujourd'hui, je ne le savais pas moi non plus.
45. Pellorat hésitait à déranger Trévise. Trévise, toujours aussi immobile sur son siège, perdu dans ses pensées. Il se décida finalement.
« Est-ce qu'on va passer la nuit ici, Golan ?»
Trévise sursauta. « Non. Vous avez tout à fait raison. On sera mieux avec un peu plus de compagnie. Venez. »
Pellorat se leva. Il remarqua.
« On ne risque pas d'avoir de la compagnie. Rappelez-vous, Compor nous a expliqué que c'était une espèce de journée de méditation. »
Il a dit ça. Y avait-il de la circulation sur la route que nous avons prise pour venir ?
Oui, un peu.
Pas mal même, je dirais. Et ensuite, quand nous sommes entrés en ville, était-elle déserte ?
Pas particulièrement. Toutefois, vous devez bien admettre qu'ici, l'endroit était vide.
Certes. J'ai remarqué cette particularité.
Mais venez, Janov.
J'ai faim. On doit bien pouvoir trouver un endroit pour manger. Et on peut se permettre de bien choisir, du moins on peut essayer de dénicher un coin original ou tâter de quelque intéressante spécialité séchelloise ou, si jamais on perd patience, où l'on sert au moins de la bonne cuisine galactique. Allons, venez donc. Une fois que nous serons en sûreté au milieu des gens, je vous dirai mon idée sur ce qui a dû arriver ici.
46.
Trévise se radossa avec une agréable sensation de plénitude. Le restaurant n'avait rien de luxueux selon les critères de Terminus, mais il était certainement original. D'abord, il était chauffé par une cheminée dans laquelle on cuisait la nourriture. La viande était accompagnée d'un assortiment de sauces relevées et servie détaillée en bouchées que l'on prenait avec les doigts, non sans avoir auparavant saisi, pour se protéger de la chaleur et de la graisse, des feuilles vertes et douces, qui était humide et fraîche et avait un vague goût de menthe. Une feuille, une bouchée de viande, et l'on mangeait les deux d'un coup. Le maître d'hôtel leur avait soigneusement expliqué comment procéder. Apparemment habitué aux hôtes étrangers à la planète, il avait eu un sourire paternel en voyant Trévise et Pellorat pêcher maladroitement les morceaux de viande fumant et s'était montré à l'évidence ravi du soulagement manifesté par les étrangers à la découverte que les feuilles permettaient de garder les doigts au frais, en même temps qu'elle refroidissait la viande lorsqu'on la mâchait.
Délicieux,
dit Trévise avant d'en redemander. Pellorat en reprit également. Ils terminèrent leur repas avec un dessert à la consistance spongieuse, vaguement sucrée, et une tasse de café, dont le goût caramélisé provoqua chez eux un hochement de tête dubitatif. Ils y ajoutèrent du sucre, et cette fois, ce fut au tour du maître d'hôtel de hocher la tête.
« Eh bien, » dit enfin Pellorat, « que s'est-il passé à l'office du tourisme ?»«
Vous voulez dire avec Compor ?
Auriez-vous un autre sujet de conversation en tête ?»
Trévise regarda autour de lui. Ils étaient dans une profonde alcôve et jouissaient d'une relative intimité, mais surtout, le restaurant était comble et le brouhaha des conversations formait une parfaite couverture. Il répondit à voix basse.
Vous ne trouvez pas étrange qu'il nous ait suivis jusqu'à Seychelles ?
Il a invoqué son don pour l'intuition.
Oui. À l'université, il était déjà le champion toute catégorie de l'hyperpistage. Je n'aurais jamais eu l'idée de mettre la chose en question jusqu'à aujourd'hui. Je vois parfaitement comment on peut être capable d'estimer la direction vers laquelle une personne s'apprête à sauter, rien qu'en observant ses préparatifs, pourvu qu'on ait un certain don pour ça, certains réflexes. Mais je ne vois vraiment pas comment un pisteur pourrait arriver à estimer une séquence de sauts. On ne se prépare jamais que pour le premier de la série. Tous les autres sont pris en charge par l'ordinateur. Le pisteur peut estimer le premier. Mais par quel tour de magie peut-il bien deviner ce qui se cache dans les entrailles de l'ordinateur ?
Mais il y est bien parvenu, Golan.
Certes. est la seule manière possible que je puisse imaginer. C'est qu'il l'ait fait en sachant à l'avance notre destination, en la connaissant, pas en l'estimant.
Pellerat considéra la chose. Tout à fait impossible, mon garçon.
Comment pouvait-il la connaître? Nous n'avons décidé de notre destination que bien après avoir embarqué sur l'étoile lointaine,
je le sais. Et cette histoire de journée de méditation?
Compor ne nous a pas menti. Le maître d'hôtel nous a bien dit que c'était un jour de méditation lorsqu'on lui a posé la question à l'entrée.
Oui, mais il a dit aussi que le restaurant n'était pas fermé. En fait, ce qu'il a dit exactement, c'est « Seychelles-Ville n'est pas la Cambrousse. Tout ne s'arrête pas. » En d'autres termes, les gens méditent. Mais pas dans la métropole, où tout le monde est à la page et où la piété pratiquée dans les bourgades n'a plus sa place. D'où la circulation et l'activité, peut-être pas aussi développée que d'ordinaire, mais de l'activité tout de même.
Mais Golan, personne n'a mis les pieds dans l'office du tourisme de tout le temps que nous y avons passé. Ça m'a frappé. Absolument personne n'est entré.
Je l'ai noté, moi aussi. À un moment, je suis même allé voir dehors par la fenêtre, et j'ai pu constater que dans les rues avoisinantes se trouvaient un certain nombre de piétons et de véhicules, et pourtant, pas une seule personne n'est entrée. La journée de la méditation fournissait la couverture idéale. Jamais nous ne nous serions posé de questions sur cette intimité fort bienvenue si je n'avais pas tout bêtement décidé de ne pas me fier à ce fils de deux étrangers.
Alors, quelle est la signification de tout ceci?
Je crois que c'est simple, Janov. Nous avons ici un individu qui sait où nous allons à l'instant même où on le décide, même si lui et nous sommes dans deux astronefs différents. Voici également un individu capable de maintenir vide un édifice public alors qu'il y a du monde dans les rues alentour. Tout cela pour que nous puissions discuter dans une intimité fort bienvenue.
Vous voulez me faire croire qu'il peut accomplir des miracles?
Certainement. S'il se trouve que Compor est un agent de la seconde fondation et qu'il sait contrôler les esprits, s'il peut lire dans le vôtre ou le mien, même à distance depuis un autre astronef, s'il est capable d'influencer tout un poste de douane pour le franchir sans coup férir, s'il peut atterrir par dégravité sans pour autant qu'une patrouille douanière ne se vexe d'une telle méfiance à l'égard des faisceaux de guidage, s'il peut influer sur l'esprit des gens pour les empêcher de pénétrer dans un édifice où ils ne désirent pas les voir entrer.
Par toutes les étoiles.
Poursuivit Trévise, l'air visiblement chagriné. Je peux même remonter le processus jusqu'à l'époque de notre diplôme. C'est vrai que je ne l'ai pas accompagné lors de son voyage. Je me rappelle que je n'avais pas eu envie de le suivre. N'était-ce pas sous l'effet de son influence? Il lui fallait être seul. Où allait-il en réalité?
Pellerat repoussa les assiettes devant lui, comme s'il voulait se dégager un espace pour avoir de la place pour réfléchir. Ce fut apparemment le signe qu'attendait le robot-serveur, une desserte automotrice qui vint s'arrêter le long de leur table, attendant qu'ils déposent assiettes et couverts. Quand ils furent de nouveau seuls, Pellerat dit
« Mais c'est fou. Tout ce qui nous est arrivé aurait fort bien pu se produire naturellement. Une fois que vous vous êtes mis dans la tête que quelqu'un contrôle les événements, vous pouvez absolument tout interpréter dans ce sens et finir par ne plus trouver nulle part la moindre certitude raisonnable. Allons, vieux compagnon. Tout ceci me paraît bien contourné et surtout affaire d'interprétation. Ne cédez pas à la paranoïa.
Je ne voudrais pas non plus céder à la facilité.
Eh bien, examinons tout cela logiquement. Supposons qu'il soit effectivement, un agent de la seconde fondation. Pourquoi courrait-il le risque d'éveiller nos soupçons en maintenant désert l'office du tourisme? Qu'a-t-il révélé de si important que la proximité toute relative de quelques personnes par ailleurs absorbées par leurs propres préoccupations pût faire une quelconque différence?
Il y a une réponse facile à cela, Janov. C'est qu'il a eu besoin d'examiner de près notre esprit.
Et pour ce faire, il ne lui fallait aucune interférence, pas de parasites, aucun risque de confusion.
Là encore, pure interprétation de votre part.
Qu'avait-il de si important dans sa conversation avec nous?
On pourrait fort bien supposer, comme lui-même l'a d'ailleurs souligné, qu'il a uniquement cherché à nous rencontrer pour s'expliquer de ses actes, s'en excuser, et nous prévenir des ennuis qui risquaient de nous attendre. Pourquoi vouloir chercher plus loin?
Le petit tiroir de paiement encastré dans l'épaisseur de la table s'éclaira avec discrétion tandis que le montant de leur addition s'y affichait en chiffres clignotants. Trévise sortit de sous sa ceinture la carte de crédit marquée à l'empreinte de la fondation, qui était valable n'importe où dans la galaxie, du moins partout où était susceptible de se rendre un citoyen de la fondation. Il l'inséra dans la fantidouane. Il fallut quelques instants pour que s'opère la transaction, et Trévise, avec sa prudence innée, en vérifia le solde avant de la remettre dans sa poche. Il jeta un coup d'œil alentour, mine de rien, pour s'assurer qu'aucun intérêt déplacé ne se lisait sur le visage des quelques clients encore présents dans la salle. Et, rassuré, il répondit à Pellerat.
Pourquoi chercher plus loin?
Pourquoi? Parce qu'il n'a pas parlé que de ça. Il a parlé aussi de la Terre. Il nous a dit que c'était une planète morte, puis nous a instamment poussés à nous rendre sur Camporellon. Est-ce que nous allons le faire?
C'est une chose que j'avais envisagée, Golan, admit Pellerat.
De partir d'ici? Comme ça?
On pourrait toujours revenir, une fois vérifié le secteur de Sirius.
L'idée ne vous a pas effleuré que l'unique propos de cette rencontre pouvait bien être de nous éloigner de Seychelles, en nous envoyant ailleurs, n'importe où ailleurs qu'ici?
Mais pourquoi?
Je l'ignore. Écoutez, ils escomptaient nous voir aller à Trentor. C'était ce que vous aviez initialement décidé de faire, et il est possible qu'ils aient compté là-dessus. Mais j'ai mis la pagaille dans leur plan en insistant pour qu'on aille à Seychelles, qui était le dernier endroit où ils voulaient nous voir débarquer, tant et si bien qu'ils font tout à présent pour nous faire déguerpir d'ici.
Pellerat avait l'air pour le moins mécontent.
Mais Golan, ce ne sont là que des phrases. Pourquoi diantre ne voudrait-il pas de nous à Seychelles?
Je n'en sais rien, Janoff. Mais pour moi, ça me suffit de savoir qu'ils ne nous veulent pas ici. Je reste. Je n'ai pas l'intention de bouger.
Mais, écoutez, Golan, si la seconde fondation voulait nous voir partir, ne lui suffirait-il pas d'influer sur notre esprit pour nous en suggérer l'envie? Pourquoi se fatiguer à vouloir nous raisonner?
Vous faites bien de soulever la question. N'est-ce pas justement ce qu'ils ont fait dans votre cas, professeur?
Et les yeux de Trévise s'étrécirent, devenus soudain soupçonneux.
N'avez-vous pas envie de partir?
Pellerat le regarda, pour le moins surpris.
Ça me paraît simplement une idée assez logique.
Normal, si vous avez subi leurs suggestions.
Mais je n'ai rien subi du tout.
Bien sûr. C'est exactement ce que vous diriez si vous aviez été soumis à leur conditionnement.
Si vous cherchez à me coincer comme ça, effectivement, il n'y aura aucun moyen de vous démontrer le contraire. Alors finalement, qu'est-ce que vous comptez faire?
Je vais rester à Seychelles. Et vous aussi. Vous êtes incapable sans moi de piloter le vaisseau. Et si Comport vous a conditionné, eh bien il s'est trompé de bonhomme.
Très bien, Golan. Nous resterons à Seychelles, jusqu'à ce que nous ayons, indépendamment, des raisons d'en partir. Après tout, le pire qui puisse nous arriver, pis encore que de rester ou de partir, ce serait qu'on finisse par se bouffer le nez. Allons, vieux camarade, si j'avais été conditionné, est-ce que je serais capable de changer d'avis pour vous suivre de mon plein gré, comme je compte bien le faire à présent?
Trévise réfléchit un moment, puis, comme mu soudain par un ressort intérieur, il sourit et lui tendit la main.
Top là, Janoff.
Et à présent, retournons au vaisseau. Demain, on prendra un nouveau départ. Si d'ici là on trouve une idée